du rayonnement de Jérusalem pour rayonner sur l'ensemble de la planète. Ce n'est pas moi qui rayonne, c'est Jérusalem qui rayonne. Et voilà, donc nous allons aujourd'hui aborder un sujet très important qui est la signification du don de la Torah pour les nations. C'est ce que m'a demandé le Rav Khalifa, je ne me trompe pas. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons beaucoup de sources midrashiques essentiellement, le midrash étant la partie de la loi orale qui parle de thèmes de morale, de pensée, de philosophie, de beaucoup de choses, mais en dehors des problèmes directs de la loi. Nous avons beaucoup donc de sources midrashiques qui traitent justement de la signification de la Torah pour les nations. En effet, l'événement de la révélation du Sinaï, bien qu'étant un événement essentiellement centré sur le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, a une portée universelle. Et cette portée universelle est, à mon avis, fondamentale. J'irais même, on dit souvent que bon, ce qui a été donné au mont du Sinaï, c'est les 10 commandements. Et si vous comptez le nombre des lettres hébraïques qui composent les 10 commandements, ça vous donne un chiffre de, alors vous pouvez deviner, ça donne exactement 600, combien vous dites? 620 lettres. 620 lettres, ce qui est égal, à, pour ceux qui connaissent les mathématiques, à 613 plus 7. Or, 613, c'est le nombre des commandements donnés à Israël, et 7, ce sont les 7 lois noachides. Ce qui veut dire que les 10 commandements ne sont véritablement entiers que s'ils incluent en eux le message universel, que l'on résume d'habitude avec 7 commandements seulement. Comme vous le savez, ces 7 commandements sont des grands principes qui contiennent en eux énormément d'instructions. Donc 613 plus 7, ça nous fait 620. 620, pour ceux qui aiment les mathématiques, ça a la valeur numérique du mot Keter, qui veut dire une couronne. C'est-à-dire que, et ça c'est ce que dit le Zohar, Dieu n'a sa couronne sur sa tête, pourrait-on dire, c'est une image évidemment, il n'a sa couronne sur sa tête que si les nations participent au don de la Torah. En effet, la section de la Torah dans laquelle apparaît le récit des 10 commandements, la révélation du Sinaï, eh bien, cette section, c'est celle de Yitro, Jétro, comme on dit en français, qui est le beau-père de Moïse, mais qui n'est pas un des fils d'Israël. Il appartient justement à la nation midianite. Et le Zohar nous dit, parce que la Torah ne peut pas être donnée s'il n'y a pas, lors de la révélation, un représentant des nations. C'est-à-dire, si la Torah n'était donnée qu'en présence des enfants d'Israël, eh bien, ça serait un échec, pourrait-on dire, du projet de la révélation. La révélation est destinée à l'ensemble de l'humanité, même si le canal est Israël. À ce propos, je pense à une pensée d'un Français bien connu, Blaise Pascal, qui, dans son livre, justement, dans les pensées de Pascal, dit... L'existence du peuple juif m'intrigue et m'interpelle parce que si jamais Dieu s'est révélé aux hommes, eh bien c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. C'est-à-dire qu'il y a quand même un canal, et ce canal a été imposé au peuple d'Israël, mais en tant que canal, il a le devoir de transmettre cet enseignement, ces valeurs, à l'ensemble de l'humanité. On peut redire que ce qui est important lors de la révélation, c'est qu'il a été révélé qu'il y a une révélation. En effet, imaginez qu'est-ce que serait le monde sans une parole du Créateur. Ça serait quelque chose d'absolument terrible, on pourrait dire même de démoniaque à la limite. Imaginez que l'homme est jeté dans l'univers, jeté dans le cosmos, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, sans qu'on lui donne instruction. Je ne sais pas, imaginez qu'on vous parachute sur une île déserte, et puis on ne vous dit même pas ce que vous devez faire là-bas. Et alors vous êtes complètement désemparé et vous devez trouver vous-même les moyens de survivre. De même, l'homme a été jeté par le Créateur dans une grande île déserte qui est l'ensemble du cosmos. Il est tout à fait normal qu'on lui explique ce qu'il doit faire. D'ailleurs, remarquez une chose assez passionnante, c'est que dans le récit de la création de l'homme, la première chose qui arrive à l'homme, c'est que Dieu lui parle. Or ça, c'est quelque chose d'absolument inouï parce que nous avons l'habitude de penser que bon, un homme à qui Dieu parle, ça s'appelle un prophète. Pour être prophète, il faut un niveau moral et intellectuel extrêmement élevé. Et ici, vous avez un homme qui vient d'être créé il y a 5 minutes et à qui Dieu déjà parle. Déjà, il prophétise. Cela voudrait dire, en fait, que prophétiser, excusez-moi, que prophétiser, c'est le comportement normal de l'homme. Qu'il y ait une relation entre Dieu et les hommes, c'est ça qui est moralement exigeable par rapport au Créateur. Si tu m'as jeté dans le monde, c'est que tu dois me parler. Et donc, le fait que depuis déjà 2400 ans, nous n'avons plus de prophètes, eh bien, cela est extrêmement malencontreux. Ça voudrait dire qu'il y a ici un problème moral véritable, un problème moral d'inadaptation de l'humanité à la parole de Dieu, etc. Mais donc, le fait que, après plusieurs milliers d'années d'histoire, le Créateur du monde s'est adressé à une communauté humaine, eh bien, cela nous rassure. Cela veut dire qu'en fait, le monde a un sens, que le monde n'est pas entièrement abandonné à la nature, au hasard, à la violence. Il y a quelqu'un derrière ce projet qui se cache. À nouveau, je vais faire appel à vos connaissances de la langue hébraïque. Excusez-moi, c'est le printemps à Jérusalem. Vos connaissances de la lettre hébraïque, vous connaissez de l'alphabet hébraïque. Vous savez certainement que l'alphabet commence par un aleph et continue par un bet. C'est pour ça que ça s'appelle un alphabet. De même, les Grecs, après, ont repris ça en alphabeta, et en français, ça donnait l'abbé. Mais en hébreu, aleph, et puis après un bet. Aleph étant la première lettre, le bet étant une deuxième lettre, eh bien, on s'attendrait à ce que le récit de la Torah commence par la lettre aleph. Ce qui est très surprenant, étant donné que, finalement, ce que nous voyons, c'est que dans le texte hébraïque, la Torah commence par un bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Et le Zohar, qui ne manque pas d'humour, raconte que les lettres sont venues se présenter devant le Créateur lorsque Dieu a voulu créer le monde, et que chaque lettre s'est proposée comme étant la lettre avec laquelle Dieu allait commencer le récit de la création, et donc la création tout court. Et ça commence par la dernière lettre, le Tav, qui se présente, et puis pour des tas de raisons que le Zohar explicite, le Tav est disqualifié, et puis après le Shin, et après le Kouf, et après le Resh, enfin le Resh et le Kouf, et le Tzadik, etc. Finalement, on en arrive à la lettre Bet. La lettre Bet se présente devant le Créateur et dit, voilà, il faut que tu crées le monde par moi, parce que la lettre Bet est le début du mot bénédiction, Beracha en hébreu. Et alors, le Aleph qui attendait son tour ne dit rien. C'est-à-dire Dieu accepte de créer le monde par la lettre Bet. Et le Aleph reste dans le silence, probablement vexé. Et alors, Dieu dit au Aleph, ne t'en fais pas, lorsque je me révélerai aux hommes, je commencerai par toi. Effectivement, le premier mot des 10 commandements, Anochi, moi, en hébreu, ça commence par un Aleph. Alors, ça veut dire quoi cette histoire de bête et après un Aleph? Ça veut dire qu'en fait, le monde est un masque. Le monde cache le Créateur. C'est comme si le Créateur, qui était figuré par la première lettre, eh bien, il reste caché derrière la création. La création fait une sorte d'écran entre l'homme et l'infini. Cet écran est nécessaire. C'est un écran qui permet justement d'établir l'autonomie de la civilisation humaine. Il a fallu que pendant des milliers d'années, les hommes se débrouillent tout seuls. C'est vrai que le premier homme dans le jardin d'Éden a eu un commandement, mais après, c'est fini. Et pendant plusieurs milliers d'années, donc, l'histoire avance, la civilisation se développe, mais il manque une parole. Et ce n'est que lorsque le monde est assez établi que la civilisation humaine a déjà ses acquis, aussi bien au niveau technologique que moral, politique, tout ce que vous voulez. C'est alors que le bon Dieu, lui, décide enfin de nous parler. Le Aleph va disons, se faire un passage à travers le Bet. Et c'est comme ça que nous recevons la Torah. Donc on peut dire que le fait que la Torah ait été donnée, peu importe par quel canal, mais le fait que la Torah ait été donnée, cela nous tranquillise. Nous savons enfin qu'il y a quelqu'un qui dirige tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'indifférence. Et s'il y a quelqu'un qui se révèle, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de chaos. C'est vrai que nous voyons dans le monde énormément de catastrophes, des guerres, des maladies, des injustices. Mais nous savons que derrière le rideau de tout ça, il y a quelqu'un qui fait avancer l'histoire secrètement et qui parfois se révèle. C'est ça la signification fondamentale du don de la Torah. Et de ce point de vue-là, c'est un bonheur pour l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est, disons, le premier point que je voulais mettre en valeur. Alors, je vous propose de vous référer dans les psaumes, dans les Tehillim, vous avez le psaume numéro 68. Le psaume numéro 68 est un psaume très difficile à comprendre. C'est probablement d'ailleurs le psaume le plus compliqué à comprendre dans le livre des psaumes. Mais cependant, il dit une petite phrase dans le cadre du psaume. Il est question là-bas de la révélation du Sinaï. Et les mots employés, je vais le dire d'abord en hébreu. Adonai iten omer amevasrot savarav, ça veut dire le Seigneur a donné une parole qui annonce une multitude de rassemblements, amevasrot savarav. C'est-à-dire qu'à partir d'un point, il y a une multitude énorme d'enseignements qui apparaissent, et ceci pour chaque nation. En effet, le Midrash nous dit que pourquoi est-ce que ça annonce beaucoup de rassemblements? C'est parce que chaque parole qui a été prononcée au Sinaï a été simultanément traduite en 70 langages. 70 langues, vous savez que le chiffre 70 est un chiffre typologique qui représente l'ensemble de l'humanité. Il y aurait 70 nations. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a encore beaucoup plus, mais fondamentalement, c'est le chiffre de 70 qui apparaît. Or, quand Dieu a parlé au Sinaï, eh bien, ça a été traduit en 70 langues. Alors, est-ce que cela veut dire que au Sinaï, il y avait des traducteurs ou des anges traducteurs qui étaient là à leur stand et qui s'occupaient de traduire? Évidemment, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la parole du Créateur résonne dans l'ensemble des civilisations et que chacun reçoit cette parole à sa manière. Et là, je voudrais vous citer un autre enseignement, celui d'un maître de Turquie, Rabbi Moshe Alcher, au XVIe siècle. Rabbi Moshe Alcher, qui par la suite, après, est venu enseigner, était devenu le rabbin de la ville de Safed en Galilée. Eh bien, ce Rabbi Moshe Alcher, dans son commentaire de la Torah, qui est un commentaire très riche d'ailleurs, se demande, mais qui a entendu les 70 paroles? C'est-à-dire, il reprend le texte de Midrashic et dit, s'il y a eu 70 paroles, c'est que quelqu'un les a entendues, ces paroles. Qui les a entendues? Nous n'avons pas entendu dire qu'il y aurait eu 70 révélations sinaïtiques chez les nations. Et alors il répond, oui, mais ceux qui ont entendu les 70 langues, c'était les anges tutélaires des nations. C'est-à-dire chaque nation est plus ou moins, on va dire, gérée par un ange ou un archange. Vous savez que dans la tradition européenne, ça a eu une certaine résonance. Par exemple, les Français ont considéré que l'ange tutélaire de la France, c'est l'archange Saint-Michel, celui qu'on appelle chez nous Michaël. Et en fait, bon, ce sont des traductions un peu en termes de paganisme, de tradition authentique. Et donc, ce que dit Rabbi Moshe Alcher, c'est que les 70 langues ont été entendues par les 70 anges des nations. Alors le problème se pose, qu'est-ce que ça peut nous faire ce qu'ont entendu les anges? Nous, nous sommes des hommes sur la terre. Et le fait qu'il y ait un ange en haut qui a reçu quelque chose ne me concerne pas directement. À nouveau, vous voyez le sens de l'humour des rabbins. Et Rabbi Moshe Alcher répond, mais non, non, c'est vrai que c'est l'ange qui a entendu la parole, mais l'écho de la parole a été entendu par les nations sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a, depuis la révélation sinaïtique, ça fait déjà 3 300 ans que ça s'est passé quand même, il y a une résonance, un écho de la parole divine qui interpelle l'ensemble des nations. Ce qui explique d'ailleurs la sensibilité qu'ont les nations pour la Torah d'Israël. Parce que s'il n'y avait pas eu cet écho, eh bien, le judaïsme aurait été la religion locale d'un peuple au Proche-Orient. Mais ce que nous voyons dans toutes ces traditions, c'est qu'au contraire, nos sages ont compris que ce message concernait l'ensemble de l'humanité et que chacun entend l'écho selon une résonance qui lui est propre. Ce qui vous explique d'ailleurs pourquoi est-ce que dans le noachisme, il n'est question que de 7 commandements noachides et d'ailleurs essentiellement négatifs, ce qu'il ne faut pas faire. Alors on se demande, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de positif? Les enfants d'Israël, eux, ont 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Mais au contraire, s'il y avait des commandements positifs dans la loi noachide, ça paralyserait le développement autonome des civilisations. C'est-à-dire, la loi noachide est là pour donner l'inspiration fondamentale parce que Dieu fait confiance aux hommes. Il fait confiance aux hommes que l'histoire peut réussir. Vous savez, il y a un très beau midrash qui raconte que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a demandé l'avis des anges, il a pris conseil et il s'est adressé à 4 anges différents. L'un qui s'appelait bonté, l'autre qui s'appelait vérité, le troisième s'appelait justice et le quatrième s'appelait paix. Et les anges ont commencé à discuter entre eux, est-ce que l'on peut faire confiance à l'homme? Est-ce que l'homme est capable de réaliser ces grands idéaux de bonté, de paix, de vérité, de justice? Et le Midrash, qui à nouveau ne manque pas d'humour, vous savez que pour comprendre un Midrash, il faut avoir le sens de l'humour. Eh bien, pendant que les anges discutaient entre eux, quand personne ne le remarquait, Dieu a créé l'homme. Alors les anges, quand ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé, ont commencé à protester. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas demandé notre avis? Et le plus effronté des anges, c'était celui qui s'appelait Vérité, qui a commencé à dire, mais on m'a piétiné. Et alors, le Midrash raconte que Dieu prend la paix dans sa poigne et le jette à terre. Et alors, les anges effrayés se disent, mais tu as détruit le critère de tes valeurs. Et Dieu dit, non, 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 ne vous en faites pas. La vérité remontera depuis la terre. Ça veut dire qu'en fait, si les anges n'ont pas confiance en l'homme, et il y a des bonnes raisons de ne pas avoir confiance en l'homme, quand on voit ce que les hommes ont fait dans l'histoire, on ne peut pas être tout à fait satisfait. Mais on voit que Dieu fait confiance en l'homme. Vous savez, c'est un de mes maîtres, une fois, a rencontré quelqu'un qui dit, je ne crois pas en Dieu. Il lui a répondu, oui, mais l'essentiel, c'est que Dieu croit en toi. Et on peut dire que c'est la confiance que met Dieu dans l'humanité est absolument extraordinaire. Il a donné à Israël sa Torah, il a donné 7 commandements aux fils de Noé et il leur fait confiance que l'histoire pourra réussir. Alors, donc, de ce point de vue-là, on peut dire le don de la Torah à Israël est fondamentalement important pour. Oh, excusez-moi. Pour l'ensemble de l'humanité. J'espère d'ailleurs que vous priez pour ma guérison, mais même si vous ne le faites pas, je pense que ma situation n'est pas si grave. Et donc, je pense avoir bien mis en évidence cette importance de la Torah pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, je voudrais rentrer dans un point plus profondément dans le détail des choses. Vous savez que la Torah vient du ciel. Comme on dit, Torah mina shamaim, la Torah est révélée. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin que la Torah soit révélée? Pourquoi ne pas faire confiance? Si déjà on fait confiance, on pourrait faire confiance aux hommes qu'ils sont capables de s'inventer à eux une loi. Effectivement, dans le cadre de l'histoire, nous avons plusieurs personnes de très haut niveau qui ont fondé les lois de leur société. Je pense par exemple à un des plus anciens, un certain Platon, qui a écrit un livre extrêmement dense et riche, Les Lois, le livre des lois, en 10 volumes. Et mais il n'est pas le seul. Il y a de nombreuses législations inventées dans le cadre de l'histoire que parfois leurs auteurs prétendaient être le fruit d'une révélation, mais souvent ils ne le faisaient pas. Souvent, les auteurs des lois ont reconnu que c'était eux l'inventeur. La démocratie à Athènes, ben, c'était le fruit d'un certain Solon, et ça a très bien marché, etc. Et donc, la question de savoir pourquoi est-ce que, si on peut dire entre guillemets, le bon Dieu s'est dérangé pour expliquer aux hommes ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on ne veut pas faire confiance? Si déjà on fait confiance aux hommes, eh bien qu'on fasse confiance jusqu'au bout. Et pour bien comprendre ça, je voudrais, disons, passer en revue ce qui s'est passé, historiquement parlant, du temps, à l'époque où la Torah a été donnée. Nous savons que, disons, le personnage qui a été finalement choisi pour donner la Torah était Moïse. Mais nous allons voir tout de suite qu'il y avait d'autres candidats. Remarque intéressante, pourquoi Moïse et pas son frère, son grand frère, l'aîné, Aaron? Pourquoi est-ce qu'il a fallu passer par le petit frère? Et on ne peut pas ne pas oublier quelque chose d'important. C'est que Aaron a grandi parmi les Hébreux. Il était un prophète national, tandis que Moïse a grandi chez les nations, chez le pharaon d'Égypte et puis après en Midian. Et donc, il était formé à la culture universelle. À nouveau, nous voyons que le canal préféré par le Créateur pour transmettre sa volonté est celui qui est à même de connaître les grandes civilisations de son temps, même si la parole finalement est adressée à Israël. Et ça veut dire qu'en fait, pour comprendre la Torah, il faut connaître l'arrière-plan historique de cette révélation. Et là, nous voyons, nous trouvons dans la Torah trois personnages qui semblent être désignés comme candidats privilégiés pour donner la Torah. Le premier, nous en avons déjà parlé, il s'agit de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était prêtre de la nation midianite. Et c'est assez surprenant, Moïse arrive au mont Sinaï avec l'ensemble du peuple hébraïque, et alors son beau-père entend que les enfants d'Israël sont arrivés au mont Sinaï et il dit: Ah, j'arrive moi aussi. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il arrive et il commence à donner des directives à Moïse. Et il lui dit comment organiser le système judiciaire. C'est-à-dire combien de juges à la Cour suprême, combien de juges dans les cours plus inférieures, et comment, disons, établir la hiérarchie des jugements. Et là, à nouveau, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il pensait faire, Jéthro? Eh bien, Jéthro, probablement, se disait la chose suivante. Mon gendre, Moïse, à qui j'ai appris à devenir prophète, c'est moi qui lui ai donné cet enseignement, a été chargé par le Créateur de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il a très bien réussi. On pourrait dire que Moïse a enfin acquis sa maîtrise de prophète. Mais moi, Jéthro, je viens faire le doctorat, c'est-à-dire le doctorat de troisième cycle, et je viens maintenant faire l'essentiel. Puisqu'il a amené les enfants d'Israël au mont Sinaï, c'est moi qui va leur donner la Torah. C'est-à-dire, Jéthro, qui était un grand spécialiste de l'organisation sociale, surtout de son époque, pensait que c'était à lui de donner la Torah. Très surpris, Jéthro apprend de la bouche de Moïse: Tu sais, beau-père, hein, beau-papa, c'est moi qui donne la Torah, c'est pas toi. Ah bon, je ne savais pas. Donc vous avez, disons, un premier candidat. Le deuxième est un contemporain de Moïse, un homme des nations également, appelé du nom de Job, en hébreu, Iov. Vous connaissez tous le livre de Job, ça raconte la complainte, pourrait-on dire, d'un juste qui souffre injustement. Il est juste, donc pourquoi est-ce qu'il devrait souffrir? Et tout le livre de Job a pour sujet la souffrance humaine. Et dans le livre de Job, nous avons, et rappelez-vous que non seulement Job est un contemporain de Moïse, le livre de Job, d'après la tradition talmudique, a été écrit par Moïse lui-même. Or, dans un des versets, Job dit, puisse mes paroles être écrites, inscrites dans le livre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, quand on dit inscrites dans le livre à l'époque biblique, ça veut dire que mes paroles soient considérées comme de la Torah. C'est-à-dire, Job, grand spécialiste de la vie intérieure des hommes, de la souffrance humaine, de la condition humaine, pense que c'est lui qui doit donner la Torah. Et puis, vous avez un troisième personnage, peut-être un peu plus problématique, mais qui apparaît également dans la Torah. Il s'agit du prophète Bilam, en français Balaam. Ce prophète qui arrive un peu plus tard dans le récit et qui est chargé par le roi Balak de maudire Israël, est reconnu par la tradition rabbinique comme étant équivalent à Moïse en prophétie. À tel point qu'on dit, c'est vrai qu'en Israël, il n'y a pas eu de prophète grand comme Moïse, mais parmi les nations, il y en a eu. Il s'agit de Bilam. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud n'ont pas reculé devant l'idée qu'il pouvait y avoir chez les nations un prophète du même niveau que Moïse. Et donc, on peut dire, lui aussi pourrait donner la Torah. Eh bien, si on étudie attentivement les données de ces trois personnages, on se rend compte que chacun est spécialisé dans un domaine. Jéthro est spécialisé dans l'organisation de la société, ce qu'on appelle entre l'homme et son prochain. Par contre, Job est spécialisé dans les relations entre l'homme et lui-même. C'est une sorte d'existentialiste avant l'heure qui vit la vie intérieure de l'homme. Et Bilham, on pourrait dire à la limite, est une sorte d'ecclésiastique. C'était quelqu'un qui est spécialisé dans la relation envers le divin. En effet, il avait développé des techniques. Voilà, c'est terrible. Il a développé des techniques qui le mettaient en contact avec les mondes spirituels. Il se jetait au sol et c'est comme ça qu'il avait des révélations. Eh bien, ce sont trois types de relations. L'homme et son prochain, l'homme et Dieu, l'homme et lui-même. Chacune de ces trois disciplines ne nécessite pas une révélation céleste. En effet, il suffit d'être un homme intelligent pour savoir organiser la société. Il suffit d'avoir une sensibilité morale pour parler de la relation de l'homme envers lui-même et de la souffrance humaine. Il suffit d'avoir un peu le sens de la spiritualité pour développer un culte envers la divinité, pour fonder une religion. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi une révélation? C'est tout simplement parce qu'il faut faire les trois à la fois. Or, faire les trois à la fois, l'équilibre de ces trois tendances, nécessite la révélation. Et c'est la raison pour laquelle c'est Moïse et pas les trois autres qui ont été élus. Parce que Moïse, on peut le prouver par les textes, on peut analyser sa personnalité, s'y connaissait dans les trois. Moïse savait aussi bien être l'équivalent de Jéthro que l'équivalent de Bilaam et que l'équivalent de Job. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui qui a été élu pour la révélation, comme étant canal de la révélation. Et c'est donc Moïse qui fait les trois choses à la fois. Or, il y a un midrash à nouveau assez surprenant qui nous dit que lorsque Moïse est né, alors les astrologues du pharaon On dit au Pharaon, tu sais, nous avons regardé dans les étoiles et nous avons découvert que maintenant est né le sauveur d'Israël. Très embêté, le Pharaon prend conseil de trois sages pour savoir ce qu'il faut faire. Qui sont les trois sages? Eh bien, d'après le Midrash, c'était Job, Jéthro et Bilham. C'est-à-dire que pour comprendre la nature de cet individu assez particulier qu'est Moïse, il faut s'adresser à ces trois personnes à la fois. Maintenant, essayons de comprendre un peu qu'est-ce que signifie le fait d'être le canal de la révélation. Il y a une différence très grande entre la Torah et la philosophie, la sagesse des nations. La différence, il y a beaucoup de différences évidemment, mais il y a un point très important. Et je voudrais mettre en évidence deux idées. Tout d'abord, le fait que le philosophe, quand il parle de Dieu, parle de quelque chose, d'un être. Donc la réponse que va donner le philosophe sera à la question quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Dieu? Il donnera une définition qui fait de Dieu un objet finalement, un objet intellectuel, mais un objet. Tandis que chez les prophètes, Dieu n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Il est celui qui a une volonté et qui donc entretient un dialogue. Le type de relation envers le Créateur est une relation de dialogue, de parole. Ceux qui ont lu mon introduction au Berit Shalom, le guide des lois Noachides, ont remarqué une phrase importante un peu, peut-être, enfin, qui pour moi est importante, c'est que souvent il y a une hésitation chez les penseurs pour savoir qui est au centre du monde. Certains pensent que c'est l'homme qui est au centre. C'est la tradition philosophique qui nous l'enseigne. Certains pensent que c'est Dieu qui est au centre. C'est ce que, par exemple, relève la tradition islamique. Mais dans la Torah, nous apprenons que ce qui est au centre, ce n'est ni Dieu ni l'homme. C'est le dialogue entre les deux qui s'instaure à travers la révélation de la Torah. C'est-à-dire qu'à travers la Torah, nous connaissons quelqu'un qui a une volonté avec lequel nous pouvons entretenir un dialogue, une relation de parole. C'est le premier point très important. C'est la différence entre quoi et quelqu'un, entre l'objet et le sujet. En hébreu, vous avez deux mots pour ça, ma, mi. Ma veut dire quoi, mi qui veut dire qui. Or, souvent, les philosophes se demandent qu'est-ce que Dieu, et très peu se demandent qui est Dieu. Ça, donc, c'est le premier point de la révélation. Deuxièmement, à propos de Moïse, je voudrais faire remarquer quelle est la grandeur du personnage. Par exemple, chez les philosophes ou chez tous les maîtres spirituels de l'humanité, comment est-ce que nous savons qu'un maître est un grand maître? Eh bien, ça se mesure entre autres à la quantité d'élèves. C'est-à-dire, plus j'ai d'élèves, plus je suis grand. Et chez les rabbins, on dit exactement le contraire. On est grand selon la grandeur de son maître. C'est pour ça qu'un sage est appelé en hébreu Talmid Chacham, l'élève d'un sage. C'est-à-dire, on est véritablement sage que si on a été capable de recevoir. Or, dans le traité de Habot, dans la Mishnah, le premier passage du traité Avot, qui est fondamental, c'est le livre des maximes morales du judaïsme, ça commence par une définition de Moïse. On nous dit, Moshe Kibel, Moïse a reçu. C'est la capacité de recevoir qui fait que l'on est grand. C'est pas la grandeur de l'intelligence ou de l'audace et de toutes les qualités que l'on peut avoir qui fait qu'on est grand, mais si on est capable de recevoir. C'est pour ça d'ailleurs que la seule qualité de Moïse qui est mentionnée clairement dans la Torah, c'est son humilité. Moïse était le plus humble des hommes. Le fait d'être le plus humble des hommes fait qu'il est capable de recevoir. Bon, recevoir, ça veut dire s'ouvrir, être ouvert à l'infini. Et c'est ça que nous apprenons en recevant la Torah. C'est-à-dire, ce qui est grand dans la Torah, c'est qu'elle est justement adressée à quelqu'un et que ce quelqu'un est réceptif. Et c'est beaucoup plus grand que de donner la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que les élèves, traditionnellement, ce sont eux qui sont l'origine de la sagesse du maître. Vous savez qu'il, le maître des philosophes, Socrate, disait de lui-même que son métier était celui d'une sage-femme. La mère de Socrate était elle-même une sage-femme et elle accouchait des corps. Et lui, Socrate, disait « Moi, je suis une sage-femme qui fait accoucher des âmes. » C'est-à-dire, c'est moi qui va former la spiritualité de mes élèves. Au-delà de l'idéal qu'il y a dans cela, il y a une sorte un peu de prétention. C'est-à-dire, moi, le maître, je suis plus grand que l'élève. Or, en hébreu, le mot qui veut dire l'élève, hatalmid, c'est exactement les mêmes lettres que le mot qui veut dire les sages-femmes, amialdot. Vous avez qu'à voir dans le texte du livre de Shemot, quand il est question des sages-femmes hébreux qui n'ont pas écouté l'ordre du pharaon, eh bien, là-bas, le texte est les lettres employées pour dire le mot les sages-femmes, ce sont les mêmes lettres que les mots d'élèves. C'est comme si le maître était une femme enceinte qui était porteur d'un message et que l'élève, en recevant, faisait accoucher le maître. Ça nous explique un phénomène assez surprenant, c'est que souvent, l'élève est plus grand que son maître. Je voudrais vous raconter à ce propos une anecdote. On raconte d'un des maîtres du Talmud, du nom de Rabbi Eliezer Ben Horkanos, ou qu'on l'appelait Rabbi Eliezer le Grand, dont on disait deux choses contradictoires a priori. On disait de lui qu'il n'avait jamais rien dit, qu'il n'avait pas entendu de ses maîtres. Mais on raconte également que lorsque son maître, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, lui a dit « parle », alors il a dit des choses qu'aucune oreille n'avait entendues, y compris donc l'oreille de son maître. Ça veut dire que l'élève était capable de comprendre dans le message de son maître plus que ce que le maître lui-même portait en lui. Parce que ce n'était pas la sagesse du maître qui passait, c'était la tradition de la parole. Donc, déceler dans l'enseignement du maître quelque chose que le maître ne soupçonnait même pas. Et donc, c'est ça que le don de la Torah nous invite à être des receveurs, des réceptifs. Vous savez que la Torah n'a pas été donnée sur la plus haute montagne du monde. Midrash insiste beaucoup sur le fait que le mont Sinaï était une petite montagne. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut un peu de hauteur pour recevoir la Torah, mais pas trop. Il faut être surtout capable de recevoir. Imaginez par contre que la Torah ait été donnée à l'Himalaya, au mont Everest. Ça voudrait dire que le contenu de la Torah est inaccessible aux hommes. Mais là, nous avons cette idée au contraire que la Torah descend à nous. Et comme elle descend à nous, elle peut être reçue. Il suffit simplement de savoir l'entendre et de savoir la recevoir. Je suis désolé de vous... Donc, je reviens à... Je voudrais vous conclure par un midrash supplémentaire. Vous savez qu'à la fin de la Torah, Moïse, dans son discours, dans son dernier discours, rappelle le don de la Torah. Et il dit la chose suivante. Dieu est venu du Sinaï, il a brillé depuis le mont Seir, il est apparu de la montagne de Paran, et à sa droite, un déversement de loi. Alors, le Midrash très osé dit que ça veut dire que lors du don de la Torah, chaque parole a été prononcée en quatre langues. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai amené une tradition qui parle de 70 langues, mais il y a également une tradition qui parle de quatre langues. Et quelles étaient les quatre langues? En se basant sur chacun des quatre termes que j'ai amenés, le Midrash nous dit c'était en hébreu, tenez-vous bien, en latin, en arabe et en araméen. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que Dieu parlait en latin au mont Sinaï? Non, ça veut dire simplement que quand la Torah est donnée, elle est entendue. par les grandes civilisations. Il y a ceux qui parlent le latin, qui entendent eux aussi. C'est comme si, par exemple, j'entretiens un dialogue avec quelqu'un, mais qu'il y a un auditeur qui est à côté. Et l'auditeur de culture latine entend lui aussi. Alors après, c'est devenu par toutes sortes de transformations et par toutes sortes disons, de masques, d'écrans, c'est devenu finalement le christianisme. Et puis, il y a également, quand Dieu parle en arabe, ça veut dire que l'arabisant entend lui aussi. Et après plusieurs transformations, plusieurs changements, plusieurs déformations peut-être, c'est devenu le Coran. Et quand c'est en araméen, alors ça devient, l'araméen était la lingua franca de l'Antiquité, c'est-à-dire la langue de tout le monde, ça veut dire, ça devient de l'humanisme. Et chacun entend la Torah à sa manière. Et quand c'est en hébreu, quand c'est en hébreu, il y a des chances que ce soit l'intention originelle de la Torah. En effet, le texte de Moïse continue en disant Torah tziva lanu Moshe. La Torah que nous a donnée Moshe, Morasha Kilat Yaakov, devient une transmission à travers l'assemblée de Jacob. C'est-à-dire, il y a ce surplus de Torah qui est donné en tant que loi orale. Or, la loi orale, c'est ça l'essentiel de l'alliance entre Dieu et Israël. On pourrait donc dire que dans la Bibliothèque des Nations, il faut faire une différence entre la loi écrite et la loi orale. La loi écrite est destinée à l'ensemble de l'humanité. Chaque civilisation a quelque chose à en retirer. La loi orale, c'est le secret d'Israël. C'est ce qui est étudié dans les yeshivot. C'est le Talmud. C'est la tradition rabbinique. Et cela est réservé aux enfants d'Israël et à ceux qui s'associent aux enfants d'Israël, par exemple, nos amis les Noachides à travers le monde entier. Voilà, je pense avoir donné ici une sorte de vue d'ensemble de ce que signifie la Torah pour l'humanité et l'espérance que la Torah donne aux hommes. Il y avait un poète juif français du nom de Edmond Flegg au XXe siècle. Il est un très grand poète qui a écrit un petit livre, Nous de l'espérance. C'est-à-dire, les porteurs de l'espoir de l'humanité sont le peuple d'Israël, mais cet espoir n'a de sens que si il est entretenu par une relation de dialogue avec l'ensemble des hommes. Je crois avoir été dans les temps qui m'ont été impartis. N'est-ce pas, Khalifa?
Exactement. Merci beaucoup, Aura Bourichirki, pour ce magnifique cours. Je souhaite une très bonne fête de Shavuot à tout le monde. Je tiens aussi à remercier les différents groupes qui ont participé à ce cours, donc la communauté du Congo de Monsieur Mafouala, la communauté du Québec
Santé.
dirigée par Nathan Jean-François Côté, et ainsi que le groupe du Mrav Malkou Soufir et ainsi que tous les autres participants. Ça a été un plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une très bonne fête et au plaisir de vous revoir très bientôt.
J'aimerais dire quelque
Absolument.
chose
Oui.
à Laurie Chourki. Merci beaucoup pour cet enseignement et je dois vous dire que même si vous avez éternué, ça veut dire que même les virus vous aiment.
Merci beaucoup. Très, très beau. Merci. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, merci à tous. Je tiens aussi à remercier M. David Taïeb qui a participé à la publication de ce cours avec qui on est en très bon contact. Donc je tiens aussi à le remercier pour la publication de ce cours. Voilà, shalom à tous.